Hey, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce mardi 30 avril déjà 2024. Il est 11h06 du matin. On va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo. Et attention, aujourd'hui, là, tout de suite, eh bien, ce sera marqué par l'absence de licenciaton. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas en train d'arriver, mais ça veut juste dire qu'on n'est pas encore au courant. D'ailleurs, vous allez voir si je me débrouille correctement. Normalement, cette émission est assez courte, assez légère, parce que les gros sujets ont été abordés récemment, quasiment tous, mais ça nous empêchera quand même pas de faire un tour par le Garry's Mod, d'aller faire un tour également chez People Can Fly en Pologne. On discutera un petit peu de Escape from Tarkov et de ses tentatives malheureuses récentes de soutirer un peu plus d'argent à sa communauté de Multiversus. Voilà un nom que je n'avais pas prononcé depuis bien longtemps. Et puis, qu'est-ce que je vois là, LucasArts? Je vois également politique commerciale sur Steam, des chiffres, des bandes annonces, on est plutôt sur quelque chose de pas mal du tout. Mais avant ça, un petit rappel bien sûr des titres si vous nous suiviez, si vous n'avez pas pu suivre la dernière hebdo d'Origami, eh bien par exemple, voilà, on sait désormais que Blizzard ne pratiquera pas la BlizzCon cette année, et personne n'est véritablement surpris hein, entre la débâcle actuelle autour de Overwatch 2, le licenciement de toute la team qui travaillait sur le projet Odyssey, pour rappel ce qui était censé plus ou moins incarner le futur de Blizzard, hein, ce jeu de survie multijoueur. Et puis, bah, bien sûr, l'arrivée également d'une nouvelle patronne directement parachutée depuis la marque Call of Duty. Forcément, c'est pas le moment d'organiser un événement communautaire. Qu'est-ce qu'on y ferait? Qu'est-ce qu'on raconterait finalement de tout ça? Et qu'est-ce qu'on raconterait sur scène? Blizzard a décidé donc de prévenir à l'avance que cette fois-ci, merci, mais on va s'épargner un mauvais moment. Et on comprend comment ça aurait pu être un très mauvais moment. Également, on parlait dans l'hebdo d'Origami, vendredi, du patch Fallout 4 Next Gen. Hein, donc voilà, le patch de la Discord, hein, entre des gros soucis sur PC, notamment auprès des gens qui avaient peut-être eu envie ou besoin de patcher, de modder le jeu ces dernières semaines, avec toute la ferveur Fallout actuelle. Et puis, si on met le PC de côté, eh bien, un souci de distribution, hein, également sur console au sein de l'écosystème PlayStation, un souci qu'on connaissait un petit peu, mais là-dessus, a priori, eh bien, on a de bonnes nouvelles, puisque loin, finalement, des 6 mois qu'il aura fallu au possesseur de FF7 Remake, la version PS Plus, pour obtenir le patch next-gen gratuit de FF7 Remake, eh bien, Bethesda et Sony auraient déjà rattrapé le coup durant le week-end, et on aurait déjà un patch next-gen récemment déployé pour les versions Fallout 4 PS Plus Extra, mais aussi pour la version de Fallout 4 disponible via la PlayStation Plus Collection. Souvenez-vous donc, a priori, on serait ISO désormais, ou pas loin de l'être, sur les différentes versions de Fallout disponibles sur PS5. Voilà un problème de moins. Ça foutait un peu la honte hein, de voir encore la difficulté, et généralement ça fout pas la honte à PlayStation, hein, ça fout pas la honte à Bethesda, ça fout la honte à PlayStation, qui a bien souvent justement des soucis de déploiement d'un patch next-gen selon les différentes versions, selon les différentes branches d'un même jeu en apparence, mais selon que vous le possédiez par sa version physique ou que vous l'ayez acheté, que vous le possédiez via un bouquet comme celui du PS Plus Extra ou que vous l'ayez eu via la PlayStation Plus Collection, c'est désormais réglé et normalement tout le monde a reçu son patch et donc peut bénéficier d'un mode 60 FPS. Grosso modo, c'est ce que vous allez avoir dans ce patch. Après, il y a un sélecteur effectivement de finesse visuelle, mais on a un petit peu de mal à voir la différence. C'est juste qu'avant, on n'avait pas accès aux 60 FPS sur console de nouvelle génération. Et avec ce patch, on le peut, vous le pouvez. Pendant ce temps-là, effectivement, les modeurs sur PC ont vu leur sauvegarde corrompue. Et au passage, les développeurs du mode Fallout 4 London ont dû repousser. Alors on dit repousser à une date non définie, ça laisse penser directement qu'ils en ont pour un an à réparer leur mode pour qu'il soit compatible avec cette nouvelle version de Fallout sur PC. Mais a priori, l'équipe Fallon, donc l'équipe de Fallout London, a l'air de dire que c'est plus le temps de vraiment tout blinder, tout remettre droit, et qu'on n'est pas non plus sur un report de 1 ou 2 ans, et on pourra bientôt essayer le fameux mode. Voilà. Alors récemment, les fans de Street Fighter 6 sont en pamoison devant l'annonce de Akuma. Je vous laisse regarder ça de votre côté, je vais pas essayer de faire le mec qui va analyser les animes et la nouvelle version de Akuma façon Street 6. Mais Capcom est également en pamoison devant les chiffres, ses propres chiffres, hein, et notamment ceux de Dragon's Dogma 2, au point d'avoir récemment annoncé une revisite de ses prédictions financières. Ils s'attendent du coup à 9% de recettes supplémentaires sur l'exercice fiscal en cours par rapport à ce qui avait été prévu. 971 millions de dollars au lieu de 892, grâce justement au hype combiné, en tout cas la hype maintenue de Street 6 et le très bon démarrage, on en avait parlé, de Dragon's Dogma 2. Donc ça va, on le rappelle, hein, Capcom fait partie de ces entreprises du jeu vidéo qui ne déclarent qu'une année meilleure que la précédente depuis, il me semble, désormais 10 ans ou plus de 10 ans, ou alors un tout petit peu moins. Mais voilà, ils sont habitués effectivement à ce que ça roule très bien. Un plus 9% sur les recettes attendues, c'est pas mal. Une fois que tu as annoncé ça à tes actionnaires, tu peux t'asseoir dans ta chaise, voilà, te boire ton petit café. Généralement, les questions vont pas être trop chiantes, on l'imagine. Et récemment, c'était aussi un nouveau point route pour les investisseurs de Remedy. Un Remedy qui a replacé certains de ses projets sur une espèce de frise chronologique un peu plus globale, histoire que nous, on puisse savoir un petit peu à quoi s'attendre. Et puis surtout, les actionnaires, faut pas l'oublier. Alors, on sait désormais que les remakes de Max Payne 1 et 2, si vous aviez raté les épisodes précédents, ils sont en production. Eh bien, ils quittent justement la phase de pré-production pour rentrer en pleine production en cours de ce trimestre-là, le trimestre dans lequel on vient d'entrer. Donc la différence production, pré-production, je vais essayer de la faire de la manière la plus vulgaire possible, parce que c'est là-bas que j'officie. Donc en gros, il faut se dire que la production, c'est le moment où on va vraiment venir produire le contenu du jeu, c'est-à-dire se dire qu'avant on avait l'idée générale d'un niveau, mais maintenant il faut le meubler, il faut créer ses cinématiques, il faut créer ses moments, il faut créer ses trucs, mais durant la pré-production, c'est un moment où on va beaucoup itérer pour se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu ?» Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? À quoi ressemble l'utilisation de ce pouvoir? C'est aussi durant la pré-production qu'on va écrire généralement le scénario. C'est même si ça peut être fait, j'imagine, en phase de conception également. Et quand on a solidifié, en gros, le document de design complet et qu'on a besoin finalement de transformer ce document de design et ces quelques petites tranches de bouts de jeu qu'on trouve cool, eh bien, les mettre dans un jeu, eh bien, on entre en pleine phase de production. Et donc c'est le cas pour Max Payne 1 et 2, mais c'est également le cas pour Codename Condor. Codename Condor, souvenez-vous, c'est le spin-off multijoueur de Control, hein, qui lui aussi est entré en phase de production, ou est en passe d'entrer en phase de production là en ce moment. Et puis derrière, vous avez Control 2, qui est toujours en projet bien sûr, mais qui va prendre un peu plus de temps, ainsi que le projet Kestrel qui avait été rebooté avec Tencent. Pour rappel, c'est Tencent qui l'édite, hein, et eux, ils sont un petit peu plus loin. Remedy, en gros, faut quand même le comprendre, se prépare du haut de ses 360 employés à avoir pour la première fois de son histoire deux jeux en pleine production en même temps, ainsi qu'un jeu en pré-production. Sachant que le dernier, qui doit être Kestrel, lui, doit plutôt être retourné du côté de la conception. C'est-à-dire que ça se passe sur des feuilles, on se demande ce qu'on a envie de raconter, on se demande dans quel univers on est, on se demande quel feeling on a envie de donner aux joueurs, mais on n'est pas encore en train de prototyper quoi que ce soit. Attention, mes définitions valent ce qu'elles valent, faites gaffe à mes définitions tout de même. Et pendant ce temps-là, du coup, les liens du studio avec Tencent se resserrent encore un peu plus, simple, hein, puisque le groupe chinois a augmenté récemment sa prise de participation. Il est passé de 5% à quasiment 15%. C'est donc le plus gros actionnaire, mais pas l'actionnaire majoritaire, hein. Ce sont eux qui ont le plus de votes, de droits au vote durant les différentes décisions prises par Remedy, mais ce n'est pas eux qui ont le final cut. Et donc le plus gros actionnaire, comme je le disais, qui permet donc une injection assez massive de cash, qui est forcément bien pratique, hein, quand justement vous avez besoin de maintenir à flot deux développements en pleine balle en même temps, on le disait, une pré-production en même temps, et puis à l'issue, on le rappelle, d'une année 2023 qui pour Remedy a été riche d'un succès critique fort avec Alan Wake 2, mais pas du tout riche en bénéfices, hein, on le rappelle, oui, Alan Wake 2 c'est à la hauteur de Remedy bien vendu, à la hauteur des chiffres qu'on manipule le reste de l'année quand on parle de Palworld, etc. C'est peanuts. Mais pour Remedy, c'est des bonnes ventes. Cependant, c'est pas encore des bénéfices. Et c'est chez Tencent qu'ils sont allés chercher eh bien, le cash flow pour pouvoir continuer un petit peu toutes ces opérations. Au passage, on a également appris que un personnage du top management de chez Remedy, qui s'appelle Mikael Kasurinen, qui lui était réalisateur sur Control et réalisateur sur le futur Control 2, eh bien, était promu au poste de directeur créatif de tout Remedy. Et vous allez me dire, mais dites donc, je crois que je connais déjà le directeur créatif de tout Remedy, il s'appelle Sam Lake. Eh bien, Sam Lake et lui vont désormais partager cette responsabilité, partager ce double poste de directeur créatif de Remedy. Justement, hein, on l'imagine, bah, pour épouser les nouveaux besoins du studio, ces deux productions menées en parallèle, etc., etc. Hier, on était pépère, c'était lundi, on disait « Tiens, qui va licencier qui cette fois-ci » Et puis à la place, on a vu ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est un teasing, et un teasing qui nous vient d'où? De chez Housemarque. Housemarque qui avant développait plein de jeux d'arcade extrêmement cool, et puis qui un jour est devenu le PlayStation Studio qui fabrique, en l'occurrence, bah, qui a fabriqué Returnal. Donc quand on voit ça, on se dit, attends, Housemarque, très bien, on sait que vous venez de prendre effectivement beaucoup de galons au sein des PlayStation Studios, on sait que PlayStation est en train de vous ouvrir un très très grand studio, des nouveaux locaux, etc. Vous devez devenir un peu voilà, l'une des plaques tournantes du développement PlayStation au sein de l'Europe. Très bien. Mais ça, ce que je vois, pardon, mais c'est les yeux de Selene, l'héroïne de Returnal. Et jusqu'à preuve du contraire, je crois me souvenir que eh bien, Housemarque avait d'autres projets et n'avait pas forcément prévu de revenir vers Returnal. Bon, quand bien même, moi, je m'excite un petit peu tout de même, hein, puisque je vois simplement bah, Housemarque qui communique. Donc, je m'énerve un petit peu, je me dis, ça y est, on y va, ça y est, il va se passer quelque chose. J'oublie un petit peu où je suis, j'oublie mon métier aussi. Et, bah, écoutez, ce qui se passe, c'est que très rapidement, ce tweet est retweeté par Dark Horse Comics. Donc, Dark Horse Comics, on va mettre de côté, qui sont possédés par Embracer. Enfin, non, plus par Embracer désormais, enfin... bientôt plus, donc retweeté par Dark Horse Comics, ainsi que par un studio de support PlayStation Studio qui s'appelle XDev. Écoutez, de là, on peut clairement partir du principe qu'on n'est pas sur une annonce de jeu, mais ça, on aurait pu le deviner tout seul. À aucun moment, un studio désormais de la hype, comme Returnal, n'allait annoncer son nouveau jeu en dehors d'un State of Play, en dehors d'une grosse communication de Sony, bien sûr, préparée à l'avance, etc. Moi, je me disais, si ça se trouve, ce qui va se passer, c'est que, bah, je sais pas, Housemarque va annoncer l'un des plus petits projets qui faisait leur renommée avant ça, du jeu d'arcade. Et pourquoi pas un jeu d'arcade spin-off, effectivement, sorti de l'univers de Returnal. Je vois cette image, je la trouve effectivement, bah oui, très intrigante, j'ai envie de savoir. Je percute pas tout de suite jusqu'à ce qu'effectivement ça devienne évident. Évident qu'il est question d'un comics, qu'il est question d'un produit dérivé, ou en tout cas, peut-être d'un comics interactif, ça je ne sais pas. Alors j'ai dit je ne sais pas, mais maintenant je sais, parce qu'on est cet après-midi, que je suis en train de monter cette vidéo, et que Housemarque a communiqué sur ce qui se cachait derrière ce teasing. Ce sera bel et bien un événement anniversaire pour Returnal, qui fête ses 3 ans, un événement durant lequel seront livrés aux fans eh bien, plusieurs, ce qu'ils appellent du loot, avec un roman graphique qui s'appelle Returnal Fallen Asteria, et qui semble effectivement édité chez Dark Horse, et puis également un artbook, un recueil d'images, d'illustrations autour de Returnal. Et en plus de tout ça, il semblerait que le roman graphique Returnal Fallen Asteria ait droit à une sorte d'adaptation animée, ce qui explique peut-être effectivement là l'intervention d'un développeur, en l'occurrence le studio XDev. On en voit quelques images là, et ça semble effectivement voilà, moins tiré vers la série d'animation. Je pense qu'on est assez d'accord hein, au vu des images, et plus, bah, un petit peu comme on le ressentait ce matin, voilà, le comics animé, donc des goodies pour fêter les 3 ans du jeu. Et puis ça s'arrête là finalement derrière ce teasing, mais quand même effectivement une très jolie patte artistique tout ça, et une image teaser qu'à titre personnel je n'oublierai pas. Puisque encore une fois le studio, le support XDev a communiqué également, donc on peut peut-être s'attendre à un minimum soit de mise en scène interactive, soit de quelque chose de ce genre-là. Mais comme vous avez pu le voir, il était écrit « Tomorrow ». Et Tomorrow, bah, ça nous amène à aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on saura de quoi exactement il est question à propos de ce petit, voilà, de ce petit teasing. Nous, on fera un point dessus lors de, du magnéto de l'hebdo origami de la fin de semaine, histoire que vous ayez la réponse à ce petit mystère. Je reste, quoi qu'il arrive, et puis bah, si ça se trouve, ça ne servira plus à rien d'ici à ce que je monte l'émission cet après-midi, mais je reste, quoi qu'il arrive, un peu sonné par cette manière de communiquer. Alors peut-être que j'ai fait un petit peu trop mienne l'importance qu'a eu Returnal pour le jeu vidéo, etc. Mais je trouve le teasing un peu raté, en tout cas, effectivement. Oui, c'est les 3 ans de Returnal, j'allais terminer là-dessus, en fait. J'allais terminer sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est les 3 ans de Returnal, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais je trouve que, si Dark Horse l'avait fait et que Housemarque l'avait retweeté, par exemple, si c'était passé par une espèce de truc un petit peu mieux organisé, je trouve que là, c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre, t'as quasiment plus de nouvelles depuis Returnal, et le premier truc que tu vas teaser avec un gros Tomorrow, c'est un... Je sais pas, hein, peut-être que j'y mets trop de cœur, je sais pas. Alors, vous avez les salutations distinguées du studio Facepunch. Est-ce que vous connaissez le studio Facepunch? Les créateurs du Garry's Mod, donc, ils sont venus confirmer, surtout le créateur du Garry's Mod, venus confirmer que c'est bel et bien Nintendo, ou plutôt les avocats de Nintendo, qui ont fait parvenir... Eh bien, un avis de retrait demandant à ce que tous les contenus et objets liés aux licences Nintendo soient retirés du Garry's Mod. Alors, le communiqué de Facepunch précise qu'il trouve ça, et là j'ouvre les guillemets et je les referme direct après, honnêtement plutôt juste, avant justement de continuer en disant « Ces contenus appartiennent à Nintendo et ce sont eux qui décident de ce qu'ils autorisent et de ce qu'ils interdisent. Ils ne veulent pas que vous trituriez ces contenus dans Garry's Mod. Nous devons respecter ça et retirer un maximum de ce qui peut être retiré. » Pas envie d'avoir des soucis, on les comprend. Le Garry's Mod, si vous avez raté les épisodes précédents, c'est une boîte à outils en fait, hein, qui existe depuis près de 20 ans, voire même peut-être 20 ans révolus, je ne sais plus, qui est née d'un mode de construction pour Half-Life 2, donc tout ça, ça se passe en moteur source, et on y ajoute des objets, on les manipule, on en fait des courts-métrages, on en fait des expériences curieuses, des jeux, hein, effectivement, il y a des jeux qui sont nés du Garry's Mod, et même des genres de jeux qui sont nés du Garry's Mod, comme Prop Hunt, par exemple, et puis voilà, hein, Stanley Parable vient de là également. Et donc ça fait de nombreuses années que la page Steam Workshop du Garry's Mod, c'est un petit monde à part, avec ses plusieurs milliers de réponses quand vous tapez Nintendo dans la barre de recherche, notamment beaucoup de panneaux « Fuck Nintendo » d'ailleurs, certains ont été créés il n'y a pas longtemps, d'autres moins, et puis également plus de 5000 réponses si vous cherchez Mario, à peu près 20 000 entrées différentes dans le Steam Workshop du Garry's Mod lorsque vous cherchez Animal Crossing, et donc voilà, hein, les personnages Nintendo, les designs Nintendo, l'imagerie, etc., etc., etc. Je n'étais pas du tout conscient de la puissance de Animal Crossing sur le marché contemporain du Garry's Mod. Et donc il y a d'abord eu une période de flou pendant laquelle en fait la demande de retrait, elle n'était pas tout à fait authentifiée. Internet a beaucoup théorisé sur notamment une opération menée par des faux représentants, des faux ayants droit. Mais finalement, c'est Gary Newman, le créateur de Garry's Mod en personne, et également patron de Facepunch, qui a confirmé le truc en fin de semaine dernière. Donc, terminé Mario 64 en vue FPS, terminé également l'exploration des espaces d'Ocarina of Time en multijoueur avec des avatars de Link qui tiennent des AK-47. Voilà, c'est un processus qui pourrait cependant s'avérer assez long. Selon les développeurs du mod, il y a tellement de contenus liés à Nintendo sur la plateforme que la meilleure manière de les aider serait que la communauté mette en fait la main à la pâte et que les gens dépublient eux-mêmes en toute bonne foi les contenus sous copyright qu'ils ont mis en ligne sur le Garry's Mod. Voilà qui ne va effectivement pas arranger les affaires des gens qui ont déjà un sentiment anti-Nintendo assez fort sur ces sujets. Mais quoi qu'il arrive, bah Gary Newman, il n'avait pas l'air de vouloir s'abîmer dans une bataille pareille, et quelque part, je peux tout à fait le comprendre. Sachant que tout ça, c'est le respect des règles et que Steam Workshop, effectivement, eh bien, est assez clair sur le sujet. Si l'ayant droit demande, c'est la double peine, parce qu'à la base, effectivement, il est quand même écrit « N'uploadez tout simplement pas de contenu sur lesquels vous n'avez pas les droits ». Et je vous laisse aller faire un tour sur le Steam Workshop du Garry's Mod. Si vous n'avez jamais découvert ce monde merveilleux, tout comme je voulais chercher Garry's Mod sur YouTube, et vous êtes parti dans l'un des plus grands vortex de mon internet, en tout cas. Alors, People Can Fly a donné récemment des nouvelles, par l'intermédiaire toujours d'un petit bilan financier. Et donc, c'est le clap de fin pour le projet Dagger, décidément un projet maudit du développeur-éditeur polonais. Un rapport aux investisseurs récent vient... Enfin, pas récent en vérité, il est vieux de quelques semaines, mais il a récemment été passé au peigne fin par des Twittos, des Ixos. On dit Ixos ? Je sais pas. Bref, là-dedans, on découvre que People Can Fly a décidé d'inscrire l'intégralité des coûts engagés dans le développement du jeu comme une perte financière, en venant effectivement impacter ses prévisions de recettes en conséquence. Pour replacer un peu Project Dagger, souvenez-vous, c'était à la base l'un des projets en mercenaires de People Can Fly, qui bossait à l'époque à la fois pour Square Enix, pour Take-Two, mais également sur plusieurs projets en auto-édition. Alors, Take-Two, c'était l'éditeur de Dagger jusqu'à 2022. Et ensuite, le géant américain avait justement décidé de se désengager du projet, de se désengager donc durant sa période de pré-production. Et cette nouvelle licence action-aventure, elle avait été conservée par People Can Fly, qui s'était alors lancé dans un autre projet d'auto-édition pour ce jeu-là, en gardant tout de même une porte ouverte, très très vocale d'ailleurs, à ce qu'un nouveau partenaire financier potentiel se présente et décide de devenir l'éditeur du projet Dagger. Et en fait, il y a eu une récente réévaluation de l'avancée du développement depuis donc la dernière prise de décision en 2022, qui semble être la cause de cette annulation, ce qui laisse à People Can Fly quelques autres projets après ça. Voilà. Projet Dagger disparaît, mais PCF, car ce sont bien ses initiales, eh bien, va pouvoir continuer à travailler sur les 6 autres jeux qu'ils ont actuellement en projet. En tout cas, si on se cale sur leurs déclarations des années précédentes, 6 autres jeux, toujours un projet... Alors, je ne sais plus combien sont en auto-édition, en tout et pour tout, mais il y avait également là-dedans, sur ces 6 jeux, 2 jeux en réalité virtuelle. Donc peut-être que c'est que 4 autres jeux, parce que bon voilà, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, voilà, simplement depuis leur mise en chantier à ces jeux-là, voilà, le marché du jeu vidéo en réalité virtuelle n'a pas toujours envoyé les meilleurs signaux, donc ça, on verra un petit peu comment ça s'étend sur la durée, mais ça fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de projets pour un seul, pour une seule entreprise, pour une seule boîte. Alors People Can Fly, on le rappelle désormais, ce n'est plus uniquement une antenne ou 2 antennes en Pologne. Ils se sont étendus un petit peu partout. Ils ont des trucs en Amérique du Nord, notamment au Canada. Ils sont posés un petit peu ailleurs aux US, il me semble. Bref, c'est un peu comme l'Ariane, on dit le studio belge, mais voilà, c'est un groupe désormais. Donc on verra un petit peu ce que ça peut donner. Mais c'est toujours un peu inquiétant, effectivement, de voir des entreprises comme ça de... Allez, entre 300 et 500 personnes qui te disent on est sur 6 projets. C'est inquiétant quand on voit Remedy le dire. C'est inquiétant quand on voit Dontnod le dire, puisque Dontnod a encore communiqué, il me semble, il y a quelques jours, pour dire TKT, on bosse sur ça, 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 ça et ça. Et il me semble que oui, ça fait beaucoup, beaucoup de projets pour une entreprise. Et ce qui raccroche un petit peu avec ce qui avait été soulevé par le STJV, d'ailleurs, à propos de Dontnod, qui disait, voilà, en fait, il y a juste trop de projets par rapport au nombre de personnes dans l'entreprise et un manque de direction générale. L'alerte avait été donnée sur ces sujets-là. D'ailleurs, j'aimerais bien, si vous travaillez chez Dontnod, que vous vouliez qu'on discute un petit peu de comment ça se passe. Moi, je suis chaud. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment autant d'annonces durant les bilans financiers sur ça avance. Voilà, les comparer au réel m'intéresserait. Voilà. Oui, c'est bien de parler d'industrie du jeu vidéo, mais c'est bien aussi de vous permettre de poser quelques jeux sur vos calendriers, dans vos wishlists. Et ça tombe bien, il y a eu quelques annonces récentes que j'ai tenu à garder. Et le premier, eh bien écoutez, il arrive dans 15 jours. Il s'appelle Baladin, souvenez-vous, avec une sortie annoncée pour le 15 mai.
Positively petrified, trembling in their boots? Go back and bring me more news. Paladins, bringing us joy wherever they go. Together they have a world to explore. Wait, haven't I told this tale before? Roll the dice, people. Only they can bring an end to this loop in time. With joy and some luck, a feat most sublime. Band together as friends, feed the dragon they must. Restore the peace, a cause most just. Together they sing the Paladin's hymn. This is it, their time is now. Paladins.
Et voilà, Baladin, ça sort donc le 15 mai. Il me semble que c'est français, mais à revérifier. Et il s'agit donc de petites aventures typé RPG donc sur table, jouable en coopération. Ah oui, ça n'a pas forcément été très très clair dans cette bande-annonce, mais c'est pensé effectivement pour la coop, et la démo est toujours disponible sur Steam. Voilà pour Baladin. Et le prochain, écoutez, il est apparu hier durant le ID at Xbox Cross IGN Showcase, où il y avait les pires blagues jamais entendues dans un événement de jeux vidéo, et j'ai fait tous les PC Gaming Show, mais cependant il y avait également Sentum. Et Sentum se lance cet été. Oupi et moi, il nous a bien tapé dans le... Ouais, ça nous parle. Voilà donc Sentum donc pour cet été sur PC et sur console, sans mention pour l'instant du Game Pass, en tout cas pas dans cette bande-annonce, mais comme vous avez pu le voir, un jeu point and click, jeu d'aventure, escape game avec des représentations visuelles quand même assez, enfin on va dire sans concession. Ça m'a fait un peu penser sur certains trucs, effectivement il y a des tableaux où on se dit ok, on est 300% dans le monde de l'Amiga, et juste après ça m'a fait penser à I Have No Mouth and I Must Scream, dont l'adaptation en jeu vidéo était quelque chose. On va dire quelque chose. Mais donc voilà, Sentum, C-E-N-T-U-M, arrive, je le disais, cet été. Et pour changer un petit peu d'ambiance avec le jeu suivant, encore un titre difficile à prononcer, c'est pas grave, arrivé en novembre, et ça fait longtemps qu'on avait regardé des bandes annonces ici, pour Uncle Chop's Rocket Chop. Oh merde, je me suis encore raté. Bon, c'est pas grave, ça va être écrit à un moment... Eh oui, c'est Uncle Chop's Rocket Shop et c'est attendu pour novembre sur PC et Xbox. Ça fait un bout de temps qu'on en parle et en l'occurrence, bon, bah, vous avez pu le voir, hein, là encore une fois, on est sur un jeu d'aventure avec un maximum de d'écrans puzzle. Ça, c'est vraiment de retour en ce moment, je trouve. Bref, en tout cas, moi, ça fait un bout de temps que l'esthétique du jeu et même son monde et PS5, pardon, c'est vrai que j'ai appris la bande-annonce sur YouTube, le YouTube de Xbox. La dernière bande-annonce d'aujourd'hui, ce ne sera pas celle de Promise Mascot Agency. Donc, le nouveau jeu très, très curieux des développeurs de Paradise Killer qui vous propose, en tant qu'ancien Yakuza, de prendre le contrôle d'une agence de mascotte au Japon. Ça, je vous laisse aller regarder cette bande-annonce vous-même, parce que je voudrais pas... Voilà, je pense qu'il faut prendre le temps et je serais assez mal l'expliquer. Mais donc, Promise Mascot Agency, je vous mettrai le lien dans la description. En revanche, voilà, la bande-annonce qu'on va regarder, c'est très honnêtement, et parce que je suis un client très facile, le jeu qui m'a gaulé durant le ID at Xbox de hier... Et vous me voyez venir sur le chat, vous le savez bien sûr que c'est All You Need Is Help qui lui arrive à l'automne
2024. お手伝いよろしくね手を挙げて目で合図息を合わせて All you need is help All みんなで You need も何度もいついついずっと遊んで Help わからないことだらけ手を挙げて目で合図息を合わせて All you need is help, help, help
Automne 2024 et directement dans le Game Pass pour All You Need Is Help. Donc ça nous vient donc des développeurs de Pixel Junk Monsters notamment. Écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire quand je vois cette bonne annonce, c'est donner au Patreon d'Origami pour pouvoir permettre à ce média de continuer, de prospérer et de vous proposer le live qui signera la rupture et l'explosion de cette équipe sur All You Need Is Help. On doit tenir au moins jusqu'à l'automne pour ça, pour pouvoir vous proposer quelque chose de télévisuellement incroyable. C'est le moment où le perfide Albion va devoir collaborer avec Sylvain et moi sur ce jeu, avec Moguri qui essaiera de tempérer un petit peu tout ça, et Hello à mon avis qui se sera déjà retiré de l'équation avant de monter quelqu'un en l'air. Donc, ouais. All you need is help. Moi, ça marche à fond sur moi. All you need is Patreon. Merci beaucoup, Lord Jeu, sur le chat. J'espère que tu vas bien. C'est la fin, donc, des bandes annonces, mais pas la fin de notre couverture de l'actu. Nous, on va continuer. Je vous avais promis tout à l'heure qu'on allait parler de Tarkov. Alors, eh ben, c'est pas tous les jours que je fais ça, mais allons-y. La semaine dernière, signé la sortie, donc, d'une mise à jour next-gen bien controversée hein, pour Fallout 4. Et pourtant, la semaine dernière, le studio de jeux vidéo le plus profondément dans la sauce auprès de sa communauté, c'était pas Bethesda, c'était Battle State Game. Et bien voilà, les créateurs de Escape from Tarkov ont récemment tenté un super jackpot, on peut le dire, en introduisant dans leur offre une édition du jeu, on le rappelle, jeu toujours en accès anticipé, une édition du jeu à 250€, seul capable de donner accès à un mode de jeu PVE persistant, exclusif, nouveau, en plus de différents avantages en PVP, considérés en plus de ça par la communauté comme discutable, à minima discutable, peut-être pay to win, mais à minima discutable. Si cette Unheard Edition, genre on n'en a jamais entendu parler, bah tu m'étonnes avec un prix pareil, a rendu les fans fous, c'est pas juste à cause de son prix bien sûr, hein, qui ne veut absolument plus rien dire, mais aussi parce qu'elle vient directement faire mentir les développeurs. Battle State, c'était engagé lors de la sortie du jeu en accès anticipé à ce que l'édition Edge of Darkness, qui coûtait elle déjà 150 balles, donne accès à tous les DLC à venir. De là, on est parti sur une petite expérience d'acrobatie sémantique avec le studio qui, face à la grogne des joueurs, sort un premier communiqué de son chapeau pour expliquer que techniquement, ce nouveau mode de jeu, c'est pas un DLC, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, selon leur petit livre, bah c'est OK. Dans le même communiqué, le studio explique par ailleurs que le caractère persistant du monde en question, du mode de jeu pardon, en question, oblige l'équipe du jeu à faire tourner ce mode sur des serveurs à part et que la capacité serveur actuelle à disposition ne permet tout simplement pas de recevoir toutes les personnes qui avaient pris l'édition à $150. Et donc là, évidemment, la grogne des joueurs ne s'est pas calmée du tout, et depuis, Battle State essaie de calmer la communauté un peu comme ils peuvent. Ils ont commencé par proposer 6 mois d'accès temporaire aux acheteurs de l'édition soi-disant full DLC, celle à 150 euros, mais c'est un accès hors ligne, c'est-à-dire que tu peux y jouer, oui, mais pas sur les serveurs, donc j'imagine que c'est pour de la LAN, je sais pas trop. Et puis ensuite, moins 50% sur le prix de l'Unheard Edition, qui, si tu possèdes déjà la version Edge of Darkness, donc t'as payé 150 € et ça te permet de ne pas payer 250 mais 125 €. Voilà, cette négociation a duré un certain temps comme ça, et puis les échanges entre la communauté et les développeurs ont commencé à prendre un tour de plus en plus procédurier, avec un vrai mouvement de grève des joueurs sur le Discord, et Battle State qui revient régulièrement un peu à la table des négociations finalement, avec de nouvelles propositions dans sa musette pour que les gens arrêtent de crier. Et donc récemment, eh bien, le PDG du studio, Nikita Bouyanov, a décidé donc d'abdiquer, si on peut dire, et de promettre l'accès au mode PVE à tout le monde, en tout cas aux possesseurs de la version 150 €, mais seulement une fois que Tarkov serait sorti d'accès anticipé, et seulement par petits groupes, pour ne pas venir surcharger ses serveurs, tout en s'engageant bien sûr à ce que d'ici là la capacité serveur ait été améliorée. Ce qu'il en ressort de cette petite pirouette, c'est que le studio semblait prêt à se cramer auprès de ses fans les plus hardcore, des gens qui ont déjà dépensé $150 dans ce jeu-là, pour simplement faire reconnaître cette différence complètement fantoche entre DLC et nouvelles features dans le cadre d'un accès anticipé. Créer presque un précédent, on peut le dire. Et cet argument-là, eh bien, il n'a pas l'air de passer justement auprès de la communauté, parce que même après les dernières concessions, le PDG, dans son message, ne revient absolument pas sur cette distinction malheureuse et ne s'excuse pas à ce sujet. Il maintient quelque part cette distinction entre nouvelles features et DLC, alors que bon, bah, ajouter une nouvelle feature dans un accès anticipé, bah c'est normal, de une, c'est un peu pour ça que t'es en accès anticipé, et puis bah de là, d'un autre côté, ce n'est absolument pas censé déclencher de nouveaux paiements, en tout cas c'est pas comme ça qu'on imagine d'habitude les accès anticipés. Si ça déclenche un nouveau paiement, c'est probablement que c'est un DLC, voilà. Effectivement, au final, ce que la communauté semble la plus à même d'accepter, c'est que le studio avait effectivement un problème d'infrastructure réseau pour lancer le nouveau mode. Mais là encore, le studio ne se donne pas une très bonne image vis-à-vis de ses plus gros fans, en disant « bon, bah, en fait, on va lancer le truc avant que tout soit prêt d'un point de vue architecture, et on va miser sur le porte-monnaie des gens les plus fébriles à propos du jeu pour se faire un billet, et pas n'importe quel billet ». 250 balles, une édition de jeu en accès anticipé. Voilà. Donc, comme vous vous en doutez, il y a une rupture. Il y a une rupture au sein de la communauté qui semble assez claire. Alors, je ne suis pas encore une fois, je ne suis pas spécialiste en la matière. Il y a peut-être des gens qui commencent à leur faire comprendre que c'est qui comprennent un peu leur situation. Peut-être qu'il y a des gens qui rentrent un petit peu dans le rang. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent que voilà, tant qu'on ne sera pas revenu dans les mots, dans les termes, clairement, sur cette espèce de dichotomie un peu bizarre entre DLC et feature dans le cadre d'un accès anticipé, eh bien on ne peut pas faire confiance à Battle State, et on peut s'attendre à ce que Battle State vienne réexploiter cette tentative, enfin cette espèce d'opposition entre les deux termes pour redouiller les joueurs. Un pan de la confiance semble désormais perdu, il va falloir effectivement ramer pour venir le chercher dans un cadre un petit peu, si vous voulez, sur l'extraction shooter, où il y a des concurrents en plus. C'est pas du tout le moment de te fâcher avec ta communauté, mais voilà, ils ont voulu y aller un peu fort, ils ont, ils ont cru un peu trop fort à leur bonne étoile. Il va rester encore beaucoup de chemin pour se refaire la cerise et puis pour redevenir sympathique auprès d'une partie des joueurs. Multiversus revient. Alors ça paraît fou, dit comme ça, mais voilà, hein, souvenez-vous là. La petite étoile filante de Warner Bros. Vise désormais ce qu'on appelle un relaunch, un relancement après un premier cycle de vie, ou en tout cas un cycle de demi-vie. Hein. Le Smash Bros. Des licences Warner s'était lancé en open beta à l'été 2022, avant d'être débranché en juin 2023, quand le studio Player First Games avait décidé de prendre l'expérience et les retours accumulés, d'emmener tout ça au garage et de réassembler Multiversus en accord avec les nouveaux savoirs accumulés. Elle est belle ma nouvelle langue d'éditeur ou pas ? Parce que j'essaie de la travailler en ce moment. Depuis, en fait, hein, les joueurs ne pouvaient accéder qu'au mode offline du jeu, dont le training et puis les matchs en multilocal. Et en gros, la tournée de relaunch, là, elle a commencé avec l'annonce d'un jeu reconstruit, certes désormais sur Unreal Engine 5 au lieu de Unreal Engine 4, mais basé sur un nouveau code réseau. Surtout, bah, évidemment, ils vont mettre en avant le code réseau. Le jeu change d'ailleurs un petit peu d'apparence au passage. Hein. Je ne sais pas si vous aviez joué au jeu, mais vous allez pouvoir retrouver des personnages un peu moins miniaturisés, de nouvelles proportions également, et également une galerie de combattants qu'ils annoncent repensée. En compagnie de Warner, bien sûr, hein, pour offrir de nouvelles surprises piochées dans les licences de Warner. Alors le défi, bien sûr, va être de taille, autant être honnête, hein, parce qu'on parle tout de même d'un jeu qui a tiré sa révérence il y a un an, sans offrir la moindre possibilité de remboursement aux personnes ayant acheté, de remboursement intégral, pardon, aux personnes qui avaient acheté du contenu sur la boutique du jeu. Ça s'était lancé en accès anticipé, la boutique avait déjà ouvert, des gens avaient déjà acheté des trucs, et notamment bah, des cosmétiques, mais aussi des packs de démarrage, comme ça se fait beaucoup dans le free-to-play. Et plutôt que de dire « on va rembourser tout le monde », c'était « écoutez, on remboursera dans les limites de ce que les conditions générales liées au remboursement édictent à propos du jeu depuis le départ ». Donc pas de remboursement intégral et inconditionnel. Et depuis, le studio Player First essaie de mitiger ce vilain coup sur la tête en traître administré par Warner, en assurant que tout ce qui avait été acheté dans la bêta sera porté et disponible d'emblée dans la nouvelle version du jeu. Mais bon, ça c'est de la promesse, et les promesses n'engagent que ceux, vous connaissez la chanson. De là, effectivement, le relancement aura lieu le 28 mai prochain sur PC et consoles d'ancienne et de nouvelle génération. Et d'ailleurs, la question que je me posais à ce moment-là, c'est « Ok, tu reviens un an après ». Après, effectivement, avoir promis que tu reviendrais début 2024. Donc, on est techniquement toujours début 2024. Et tu sors un trailer pour dire on est prêt à y aller, qui est toujours basé sur la promesse que ce que les gens ont payé va apparaître dans le jeu de l'autre côté. Moi, je me suis dit, tiens, je vais réinstaller mon petit plugin pour regarder les pouces rouges et les pouces bleus. Je pensais voir un trailer qui se faisait défoncer. Et en fait, non. En fait, ça va plutôt. L'accueil a l'air d'être plutôt encourageant, encouragé par ce qu'ils ont vu. Et donc, bah, écoutez, on verra si l'étoile filante réussit à refiler une deuxième fois lors du lancement le 28 mai. Valve a récemment annoncé une modification de sa politique de remboursement sur Steam. Et pas des moindres, hein, d'ailleurs. Ça fait déjà 8 ans que Steam... 8 ans que Steam propose donc le remboursement tel qu'on le connaît, tel qu'on le connaissait jusqu'ici, en tout cas. Moins de 2 heures de jeu joué et moins de 14 jours après achat, vous pouviez vous faire rembourser. Cependant, et honnêtement, je dois dire que je l'apprends avec cette news et je trouve ça un peu fou, ça ne concernait pas ce qu'on appelle l'Advanced Access. Alors attention, rien à voir avec l'accès anticipé, c'est pas la même chose. L'Advanced Access, c'est par exemple quand Ubisoft vous propose de jouer à tel ou tel jeu avec 3 jours d'avance, si vous avez précommandé telle édition. En gros, il existait une faille qui permettait à quelqu'un de se prendre, au hasard, Skull and Bones, en précommande, de déglinguer un maximum du contenu durant les 3 jours d'accès avant le lancement de la 1.0, et hop, à la sortie de la 1.0, remise à zéro du compteur de temps joué, techniquement tu ne l'as pas acheté il y a plus de 14 jours, Et bah, ça tombe bien, on n'a pas comptabilisé le temps que tu as passé sur cette Advanced Access. Et tu pouvais te faire rembourser ton Skull and Bones ou tout autre jeu du genre. Il y avait littéralement une faille dans le système de Steam. Et je pense que avec la montée et la multiplication de ces Advanced Access qui sont devenus désormais la norme chez beaucoup, beaucoup d'éditeurs et sur beaucoup de lancements de AAA, eh bien Steam s'est dit « Ok, on va changer tout ça et on va patcher nos conditions d'utilisation pour incorporer le temps de jeu en accès avancé au calcul, comme c'est le cas pour l'accès anticipé. » Il vous reste 6 jours et quelques heures pour vous emparer sur itch.io du Palestinian Relief Bundle, un bundle caritatif qui va regrouper 358 créateurs et créatrices et autant de créations, voire quasiment plus. L'ensemble des fonds levés par le bundle ira au fonds d'aide aux enfants de Palestine et servira donc à répondre aux besoins humanitaires urgents à Gaza, aide médicale, nourriture et eau. On parle d'un pack à 8 euros qui contient pour un peu plus de 1650 euros de comics, de bandes originales, de bouquins, de jeux, de protos, d'expériences en tout genre, parmi lesquels on a déjà A Short Hike, qui mérite ses 8 euros à lui tout seul, mais ça vaut aussi pour Coffee Talk, pour Monsters Expedition, pour Anodyne, pour l'incroyable jeu français Run the World in Between, que je recommande chaudement, jouez-y. Vous avez également Wondersong, Zero Ranger, Fatum Betula, si vous voulez, un jeu vraiment très bizarre, vraiment jeu d'ambiance, spooky, d'horreur, etc. Il est effectivement, il est imprenable dans sa catégorie. Et tout ça, c'est donc dans ce bundle qui a repoussé sa date de fin, bah parce que justement, ça marchait bien, le plafond du bundle avait été dépassé, et à partir de là, eh bien, il continue un petit peu sur cette lancée. Voilà. Et enfin, quelques chiffres, comme dirait Oupi. Alors déjà, on va parler de Manor Lords. Manor Lords, c'est donc le jeu de gestion stratégie médiévale en quasi solo dev de Slavic Magic, c'est le nom du développeur. Il a déjà atteint les 1 million de ventes en accès anticipé. Et mieux que ça, il l'a fait le premier jour de son entrée en accès anticipé. Alors à un moment, bien sûr, il faut bien que ces 3,2 millions de wishlists, servent à quelque chose. Et bah, c'est chose faite, hein, justement, hein, selon l'éditeur du jeu, Hooded Horse, puisque en plus de ces chiffres absolument stellaires de vente pour un lancement, eh bien, Manor Lords a dépassé les 170 000 joueurs simultanés sur Steam, en devenant du coup le city builder le plus joué sur Steam ever. C'est-à-dire que aucun city builder sur Steam n'a jamais atteint les 170 000 joueurs en pic. On le rappelle, jeu entièrement solo, pas de composante multijoueur. 30 euros fois 1 million. Je ne vous fais pas l'affront de faire le calcul, mais donc l'accès anticipé du jeu semble désormais hors de tout danger et l'éditeur Hooded Horse est plutôt à l'aise, vous vous en doutez. Eux qui avaient l'air justement de miser sur les bons chevaux, ces temps-ci, entre Against the Storm, c'est chez eux, Clan Folk, c'est chez eux, Soviet Republic, parlez-en à Agbou, c'est chez eux, et bientôt Norland également. Clairement, c'est en train de devenir l'éditeur à surveiller sur le segment gestion, simu, stratégie, 4X dans les temps à venir. Effectivement, vous avez raison, on n'est pas sur 30 fois 1 million, parce qu'actuellement, on était dans la première semaine de lancement, il y avait un moins 20%, mais enfin, on est quand même sur un certain nombre de millions. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres d'idées, et pourtant, en termes de célébration, c'est important. Voilà, chez Hyper Games aussi, on est très content. Leur récent jeu, Snufkin Melody of Moomin Valley, donc oui, le jeu des Moomins, a dépassé les 100 000 copies vendues entre les versions Switch et les versions PC, et donc avec plusieurs centaines de milliers de wishlists également à la clé via le bouche à oreille. Et donc ce petit studio basé à Oslo est bien content, figurez-vous, de ces chiffres pour un jeu qui est très niche, naturellement, volontairement niche, en toute conscience des choses, et manifestement risqué pour le studio qui s'était, a priori, jeté un peu à corps perdu sur ce projet-là, et ce, sans filet. Donc effectivement, Snufkin a fini parmi les 15 jeux les plus vendus sur Switch en Europe et au Japon au mois de mars, Et d'ailleurs, la passion japonaise pour les Moomins a même amené les ventes japonaises à supplanter les ventes combinées sur tous les pays nordiques sur le mois de mars. Alors que justement, les pays nordiques, hein, y a plusieurs générations de gens qui ont grandi avec la bande dessinée, avec le dessin animé, Moomin, même si plutôt la bande dessinée, je crois. Donc chez Hyper Games, en fait, on est très très content de ces 100K. C'est manifestement une bouffée d'air frais et pour le studio, et puis des promesses assez cool pour la suite. Alors c'est Raw Fury hein, qui était à l'édition du jeu. J'imagine qu'eux aussi doivent être contents, parce que c'est pas le genre de projet sur lequel tu penses faire des milliards non plus. Et en l'occurrence, bah, chez nous, on a un franc défenseur du jeu, en l'occurrence, en la personne du Perfide Albion, qui avait fait le test chez nous, qui avait trouvé ça très chou, très family friendly aussi, mais très chou. C'est pas une BD, pardon, ce sont des livres jeunesse. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis persuadé qu'il y a aussi des BD, et je cite les BD à la place. Bref. Il est midi 22 et moi je vais vous laisser. C'est merveilleux, je vous avais dit que c'était tranquille aujourd'hui, qu'on se retrouvera un peu plus tard dans la semaine pour faire le point sur le reste de l'actualité, qu'on espère aussi tranquille et légère qu'aujourd'hui. Ça fait voilà, une fois de temps en temps, c'est pas si mal. Je vous rappelle un petit peu les moments, les temps forts de cette semaine chez Origami. Déjà à 14h, là, vous avez rendez-vous avec le Perfide Albion sur cette chaîne Twitch pour continuer Metal Gear Saga. On est en plein dans Metal Gear Solid 3, donc il vit sa meilleure vie. Mais si vous n'êtes pas branché Metal Gear et que vous êtes branché le Patreon d'Origami, eh bien, dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes, vous aurez accès à Super Vieux Jeu, un nouvel épisode de Super Vieux Jeu qui dure trois fois rien, bien sûr, qui sort sur Patreon aujourd'hui et qui sortira sur YouTube demain. Un Super Vieux Jeu qui sort un jour férié. Franchement, est-ce qu'on fait pas gaffe à la FOMO, hein ? Est-ce qu'on fait pas attention à ce que vous puissiez effectivement en profiter pleinement ? Bon, ça dure 4 heures. Et ensuite, nous, ce sera vraiment le dernier temps fort, ce sera plutôt du côté de Origami Lebdo. On parlera notamment de Another Crab's Treasure, mais également de Top Spin 2K25, et probablement d'Indica aussi, si tout se passe bien. Le thème de Super Vieux Jeu, vous pouvez imaginer un peu les dates autour de nous, et vous aurez une idée potentielle du thème. Nous, on sera moins présents mercredi et jeudi, parce qu'on est en train de préparer des surprises. Eh oui, des surprises. Prenez grand soin de vous. Merci, c'était super cool. Allez, on se souhaite une excellente journée, une excellente semaine. J'espère que cette couverture de l'actualité vous a plu. Prenez grand soin de vous. Merci infiniment pour votre présence, pour les follow, pour les soutiens sur Twitch. Et merci aussi aux personnes qui ont décidé de nous accompagner sur le long run, là où c'est le plus sûr et là où c'est le plus puissant pour nous, à savoir sur patreon.com/origamimedia. On vient de franchir les 10K, c'est pas rien, c'est un très joli symbole, c'est le premier étage de la fusée, yada yada, mais surtout, ça veut dire qu'on va essayer de trouver un moment dans les temps à venir pour célébrer ça avec vous tout de même, parce que c'est pas rien quoi, c'est vraiment pas rien, donc merci, merci, merci infiniment pour votre confiance, et prenez grand soin de vous, et je me répète, donc à plus, salut !